Alors, je vais vous parler maintenant de la dimension de l'expérience. Je voudrais vous parler de l'expérience de la fertilité. Voilà. Je vais vous parler de là où de la perspective qui est la mienne. Moi, je suis donc psychologue clinicienne. Je travaille à l'hôpital Cochin. Je suis la psychologue de l'équipe d'aide médicale à procréation. On accueille environ 10 000 couples par an, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Ils ne vont pas tous rentrer dans la prise en charge. Juste pour vous dire par ailleurs, moi je suis arrivée au métier de psychologue parce que je suis formée, je travaille avec les jésuites, je suis formée à l'accompagnement spirituel selon les exercices de Saint-Ignace, enfin la spiritualité des jésuites. Voilà. Et puis du coup je me suis dit que ce serait bien de se former à la psychologie des individus à un moment donné, et du coup je suis devenue, ça m'a passionnée, je suis devenue psychologue, et mon premier poste a été à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui a fusionné avec Port-Royal. Donc je vous parle de là, et donc ça fait une dizaine d'années que j'écoute, je reçois, j'accueille des personnes qui sont confrontées à cette expérience-là. Alors je vais aller très vite par moment parce que quand j'ai préparé mon topo, je pensais que le topo d'avance ce serait sur le droit. Donc il y a quelques chiffres, des choses comme ça. Vous avez entendu, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais que pour un couple en bonne santé, quand tout va bien, la probabilité d'avoir un enfant lors d'un cycle où tout va bien est de 25% à 25 ans. C'est-à-dire c'est l'idéal, quoi. Quand tout va bien, quand on est en forme et jeune, 25%. Ce qui explique pourquoi en France, on rembourse 4 FIV, parce qu'on se dit que statistiquement, au bout de 4 FIV, il doit y avoir un bébé. Vous comprendrez que pour peu qu'on fasse un peu de maths, ça n'a rien à voir. Un couple sur 7, on a dit, va consulter pour des problèmes d'infertilité. Un couple sur 10 va suivre des traitements. Il y a entre 25 et 30 000 couples qui consultent en France chaque année. Un centre d'infertilité. Je mets ces chiffres parce que c'est pour dire que l'expérience d'infertilité, elle est à la fois assez banale, quelque chose comme on vous a dit ce matin, vous pouvez croiser des voisins, des collègues, des amis qui vivent cette expérience-là. Elle est en même temps très singulière, très personnelle. Il n'y a pas une manière de vivre l'infertilité. Elle est donc partagée par beaucoup et en même temps relativement tabou. On n'en parle pas comme ça facilement, a priori. Les chiffres, alors moi j'ai pris les chiffres de 2012 parce que l'Agence de la biomédecine vient de les sortir, donc ça a un petit peu augmenté par rapport à 2010 ou 2008. Donc on est quand même autour de 24 000 enfants nés en 2012. Au niveau des filles, vous voyez que la fille représente plus du double de l'insémination et que les XI, c'est 2/3 des filles. Alors, pour vous dire, nous, dans le centre à Cochin, il n'y a presque pas d'insémination parce que les médecins estiment en gros que c'est une perte de temps et donc une perte de chance. Il y a quelques fois, quelques cas, mais c'est plutôt rare. Et que chez nous, les XI, ça doit plutôt être les 8 dixièmes que les 2 tiers. Encore une fois, parce que c'est plus efficace et donc on va plus vite. Les considérations budgétaires sont là aussi. Alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien. Je ne discute pas de ça. Les cycles, c'est autour de 120 000 cycles pour arriver à ces 23 000 enfants. Donc vous voyez, chez nous à Cochin, on est censé être un bon centre. Le taux de réussite, les chances d'avoir un bébé en sortant de la PMA sont de 30%. Ce qui veut dire que dans la tête des gens qui viennent chez nous, ils savent que 7 couples sur 10 partiront sans enfants. Et on est un bon centre, enfin statistiquement. Ça reste à voir. Au niveau du don, c'est un phénomène, vous voyez, il y a 1300 enfants par rapport aux 23 000, ça doit faire 5%, à peu près. Je crois que c'est 4,7, j'ai calculé. Donc c'est quand même pas important, mais c'est non négligeable. Les enfants sont essentiellement nés par don de sperme. Il y a 164 enfants nés par don d'ovocytes. En France, le don d'ovocytes est une activité très très difficile. Chez nous par exemple cette année, je crois qu'on en a presque pas fait parce qu'on n'avait pas de donneuse. Ce qui veut dire que systématiquement, pour des femmes qui consultent, enfin des couples où la femme consulte à partir de l'âge de 38 ans, on va lui dire d'aller à l'étranger parce que c'est pas la peine qu'elle attende chez nous, sachant que la date limite est de 43 ans. On n'a pas le droit de dire qu'on va aller à l'étranger. Soyons clairs, on ne dit pas aller à l'étranger, mais en gros, il se trouve que des personnes qui consultent ou la femme à 38 ans ou plus ne continueront pas leur prise en charge chez nous et iront spontanément consulter à l'étranger. Moi, je suis un certain nombre de femmes, parce que ce n'est pas évident le don, je reviendrai dessus, elles vont spontanément tout de suite à l'étranger parce qu'on sait qu'en France, la durée moyenne actuelle est autour de 5 ans pour l'attente. Et que le taux de réussite en don, c'est de 50% quand tout va bien. Donc, elles ont envie de ne pas attendre trop longtemps. Alors, moi, je vais vous parler de personnes. Je vais vous parler d'abord de Madame M. Voilà, c'est une dame qui a vécu des fausses couches à répétition. Bon, alors, vous savez, dans les protocoles de fausses couches, quand une femme fait une fausse couche, c'est un événement qui... Je pourrais dire que c'est à la fois très banal, beaucoup de femmes font des fausses couches, et en même temps, c'est très douloureux. Beaucoup de femmes, tard dans leur vie, se souviennent encore des fausses couches ou de la fausse couche qu'elles auront fait plus jeunes. Les fausses couches à répétition, chez nous, on rentre dans un protocole particulier de prise en charge des personnes qui en souffrent au bout de 3 fausses couches. Ce qui fait quand même, ça peut faire beaucoup. Cette dame fait une première FIV. Donc voilà, après consultation, examen, etc. Et il y a une grossesse et il y a une fausse couche. Du coup, le médecin se dit, oh là là, c'est un peu compliqué côté psy, enfin côté humain, on va l'envoyer chez la psychologue. Elle manque de confiance dans le corps médical. J'ai envie de dire, on peut comprendre. Enfin, si vous vous mettez à sa place, c'est pas pour critiquer le corps médical du tout, mais... Elle a un désir d'enfant qui est envahissant. C'est-à-dire qu'elle me dit, si j'arrive pas à avoir ce bébé, c'est pas la peine que je vive. Et ça, c'est des paroles, on va revenir dessus, qu'on entend. On est sur des sujets de vie et de mort. Avoir un enfant, c'est quelque chose, c'est les entrailles. C'est pas choisir entre un croissant et un pain au chocolat. Donc, on est en train de parler. Alors, c'est pas collège, c'est collègue. Alors, au travail... ses collègues ne comprennent pas qu'elle soit abattue. C'est une dame qui est marginalisée. Et le harcèlement, ben, qu'est-ce qu'ils font les collègues? C'est une dame qui est dans un service, elle est assistante de direction. Et autour d'elle, donc pas mal d'assistantes, de secrétaires qui sont à un âge où elles sont toutes enceintes, plus ou moins. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles lui montrent sans cesse les photos des bébés ou des jeunes enfants, et puis des vacances, etc. Donc voilà, cette dame, c'est ça son environnement. Et son mari essaye de la protéger, mais vous comprenez bien que quand elle est au travail, il peut pas... Enfin, voilà. Et en même temps, dire à une dame, une jeune accouchée, écoutez, moi, j'ai pas envie de voir vos photos, c'est pas simple non plus. Alors, elle essaye de protéger sa famille et son mari de sa souffrance. Elle a pas envie de leur dire qu'elle est au bout du rouleau. Elle a vécu des fausses couches. En gros, autour d'elle, on lui dit, mais c'est pas grave, t'es jeune. Hein. Ça aussi, c'est des phrases, il y en aura d'autres, c'est des phrases qu'on entend. Et cette dame-là, elle est croyante, donc elle croit que c'est son destin. C'est aussi des choses que j'entends souvent en consultation. Elle me dit, c'est le destin, voilà. Si Dieu me donne un enfant, Dieu me donnera un enfant. S'il ne m'en donne pas, il ne m'en donnera pas. C'est ce qui lui permet de tenir, en fait. Et quand je dis qu'elle s'appuie, il manque un E, c'est une idée. C'est vraiment l'appui. Mais pour moi, en tant que psychologue, pour moi, c'est important de vérifier que cet appui, ce ne soit pas du type à force de poignée, quoi. J'y crois. Parce que on peut être habité par une foi extrêmement solide qui va permettre de traverser toutes sortes d'épreuves. On peut aussi être dans une espèce de volontarisme, et ça, c'est dangereux parce que ça peut casser. C'est-à-dire, on peut tout d'un coup se dire, mais j'y crois plus du tout, et je suis toute seule, et plus personne ne me comprend, et mon Dieu auquel je croyais, il me lâche. Qu'est-ce que je fais? Donc, les entretiens vont être aussi sur cette dimension-là. Je voudrais vous parler de Madame D. Madame D, c'est une jeune femme qui vit une ménopause précoce qui a été identifiée après 2 échecs de FIV. C'est une femme qui a 28 ans. Et on vient de se rendre compte donc qu'elle n'aura jamais d'enfant portant sa trace génétique. Elle est la deuxième épouse de son conjoint, qui avait plusieurs enfants, dont d'ailleurs un petit garçon qui est particulièrement difficile. Elle s'en occupe avec énormément de dévouement, de bon sens, de gentillesse. Elle est vraiment elle veut pas prendre la place de la mère de ses enfants, mais elle est vraiment très présente et très soucieuse de leur éducation. Donc elle baigne dans un univers d'enfants, même si professionnellement, c'est pas son activité. Elle a eu une enfance difficile et elle me dit en entretien que pour elle, un enfant, c'est pour réparer la petite fille qu'elle a été. C'est-à-dire qu'elle a souffert enfant, ça a été dur. Et elle aimerait avoir un enfant pour pouvoir lui donner tout ce qu'elle n'a pas eu. Ce qui est quelque chose qu'on entend souvent dans des consultations psy en maternité. Alors son mari a une maladie qui n'est pas grave, enfin il ne va pas en mourir, mais qui est handicapante, une espèce de forme de rhumatisme qui fait que c'est très douloureux par moment. Donc elle ne veut pas lui imposer sa souffrance, enfin, en quelque sorte. Et elle aussi, son contexte familial, parental est très peu soutenant. Elle investit donc son travail énormément. C'est une dame qui travaille à l'établissement français du sang. Elle est, je sais pas comment on appelle ça, enfin, technicienne de labo, je crois. Elle est très intéressée dans l'organisation du travail. Elle est en train de se poser des questions pour devenir cadre ou pas. Ce qu'il faut savoir, ça fait partie des difficultés de ces parcours en PMA, c'est qu'on ne sait jamais, hein, on suit les cycles des femmes, on suit la disponibilité des salles de l'hôpital pour les transferts, des choses comme ça. Ce qui veut dire que les dates, la durée, le temps que ça prend, les moments où on va être disponible, sont très incertains. Sont les moments où on va demander. Donc pour des personnes qui apprécient leur travail, qui ont envie de se donner, c'est parfois compliqué. Parce que si on lui propose, par exemple, de changer de travail et donc de s'investir un peu plus dans son travail, elle ne sait pas si elle a le droit, si elle peut s'autoriser à l'accepter, parce qu'il est possible qu'à ce moment-là, elle soit très sollicitée par le corps médical pour avancer dans les traitements. Elle a donc des grands moments de désespoir, mais c'est une femme qui prend beaucoup sur elle. Je suis très admirative de ça. Son mari, alors elle s'est posée, elle était assez favorable à l'adoption. Son mari, par contre, est totalement opposé. Il est totalement opposé à l'adoption. Et dans le fond, elle se dit qu'elle a déjà, en quelque sorte, adopté les enfants de son mari. Donc, bon, elle n'est pas sûre non plus. Ce que j'ai appris alors hier et qui m'a conduit à regarder les textes légaux qui encadrent la PMA, normalement dans le premier entretien où signe tous ces papiers, normalement il y a une obligation légale à parler de l'adoption. Je ne savais pas. C'est dans les textes de la loi de la. Il est très intéressant ce texte. Alors voilà, Madame K. Alors ça c'est quelque chose de très classique. Cochin, parce qu'on est spécialisé dans une difficulté, une pathologie, l'endométriose. Quelque chose, je suppose que vous connaissez tous ou pas. C'est une difficulté, enfin, que les médecins connaissent de plus en plus depuis très peu de temps. Beaucoup de femmes, je crois que le délai moyen pour repérer l'endométriose, c'est de l'ordre de 8 ans aujourd'hui. Ça correspond très souvent, enfin, les premiers signes, c'est la douleur des règles des jeunes filles au lycée, enfin au collège. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, jeunes, enfin pour les filles, mais combien de fois on dit bah, prends un Spasfon et tais-toi, entre guillemets. Et ben, il faut vraiment vous dire que si vous croisez des jeunes filles qui ont mal au ventre, systématiquement au moment de la règle, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un problème comme ça parce que ça rend la venue des enfants quand même compliquée et c'est quelque chose qui va se compliquer avec l'âge. Donc cette dame-là, elle a de l'endométriose, elle a aussi une autre difficulté qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, elle est en surpoids, elle a un BMI à 26. Alors on vous a dit, il ne faut pas fumer. C'est vrai qu'on a découvert récemment aussi que le tabac, les études montrent que ça diminue la fertilité de 50%. Donc notre chef de service, pour des raisons financières, hein, il dit, on ne peut pas dépenser, c'est entre 7 et 10 000 euros hein, une FIV pour sa coût, dans, en termes de coût. On ne va pas dépenser ça quand il y a un taux d'échec éventuel à 50%, donc on ne prend plus de femmes en charge qui fument. Ce qui, enfin, je sais pas, moi je ne fume pas, mais pour des personnes qui fument, qui viennent consulter et à qui on dit bah, faut arrêter de fumer avant qu'on vous prenne en charge, ce n'est pas forcément facile à vivre. Alors cette dame-là, c'est le surpoids, c'est un peu pareil. Le surpoids, ce n'est pas bon pour faire venir du bébé, donc on dit régime. Alors vous avez des médecins qui savent que le régime, ce n'est pas si simple. Et puis vous en avez d'autres qui le régime, c'est quand même pas compliqué. Donc la dame qui arrive avec son BMI à 26, on lui dit bah, dans 6 mois, votre BMI il est à 23. Bah, je ne sais pas si vous avez déjà tenté le coup, mais c'est pas comme ça. Alors cette dame-là, elle est d'origine étrangère, sa famille est au pays. Elle est insérée par un travail en maternelle, donc au contact de très jeunes enfants. Elle ne le vit pas trop mal. Moi, j'ai un certain nombre de patients qui ne supportent plus la vue des enfants ou des bébés. Mais elle me dit que ça lui fait du bien, que pour elle, c'est une vocation de s'occuper d'enfants. Et donc, elle a du plaisir à son travail. C'est l'aînée d'une fratrie. Elle a toujours aimé s'occuper d'enfants. Elle était la deuxième maman. Il n'y a pas de recherche en PMA, d'un point de vue psychologique, il y a des recherches sur des cas, on travaille sur des cas singuliers. Mais il se trouve que en PMA, on a quand même pas mal d'aînés de fratrie. Elle a fait un mariage d'amour, mais sa belle famille, c'était pas la femme que son, voilà, qu'ils auraient choisi s'il fallait choisir quelqu'un pour leur fils. Elle est d'origine, enfin c'est un milieu musulman, donc, enfin je dis donc, c'est pas donc, mais parce que c'est pas la religion là, c'est la culture. Mais dans l'environnement dans lequel elle est, si elle a pas d'enfant, son mari la quittera. Et j'ai vu des femmes qui ont été vraiment mises à la porte de leur maison, physiquement, dans la rue, parce qu'elles ne pouvaient pas donner d'enfant à leur conjoint. Et j'ai vu aussi des femmes qui étaient mises à la porte parce que la belle famille le souhaitait et que le mari allait récupérer au milieu de la nuit parce que lui était, enfin, voulait pas se séparer, mais qu'il ne pouvait pas faire face à la pression familiale. Donc, elle hésitait à faire une PMA, elle a consulté un imam qui lui a dit qu'il fallait qu'elle protège à tout prix son couple, donc il faut y aller là. Enfin, je vous parle d'un monsieur, parce qu'on m'avait dit en métropole, il y avait que des dames. Je reçois aussi des messieurs. C'est un monsieur, l'infertilité, c'est son fait. Alors, c'est un monsieur qui a 46 ans. La prise en charge a amené à une fille XI. Il a une femme très efficace, très opérationnelle. Elle fait une super carrière, c'est quelqu'un de très organisé. On a aussi beaucoup de femmes comme ça, très bien faite. Elle est très efficace, ne se plaint pas. Tout a été fait. Ils ont réussi à faire leur PMA dans un temps record parce qu'elle ne loupe aucune date, aucun rendez-vous. Tous les examens sont faits au bon moment. Elle attend des jumelles. Voilà. Monsieur a des difficultés professionnelles. Il est au chômage. Et alors, il se pose beaucoup de questions sur lui-même, sur son couple, sur le désir de sa femme d'avoir ses enfants à tout prix. Donc finalement, il se dit, mais peut-être on aurait dû prendre un peu de temps. Alors, il a 46 ans. Et puis cette question qui est dans sa tête, et c'est la raison pour laquelle il vient me voir, il est très inquiet de savoir si ses enfants vont être normaux. Parce que c'est une fille XI. Et il se demande beaucoup, enfin il visualise être à la sortie de l'école, maternelle, primaire. Et c'est lui qui sera à la sortie de l'école puisque sa femme elle bosse à fond et lui un peu moins. Et il se demande, est-ce qu'ils vont avoir du mal à l'école? Est-ce que les autres vont se rendre compte qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que moi je suis différent? Voilà, c'est les questions qu'il y a dans la tête de ce monsieur. Voilà, donc Je voulais vous donner un peu un parcours, enfin des visages, des histoires avant de rentrer sur la dimension plus infertilité puis psychologie. Donc la consultation d'infertilité, c'est donc aujourd'hui destiné à pallier les troubles de la fertilité d'un couple. C'est une rencontre médicale aujourd'hui, alors que la question se pose d'une prise en charge sociétale, mais on n'y est pas encore. C'est quand même un domaine à la fois récent, il y a des nouvelles techniques, moi ça fait une dizaine d'années, je pense qu'on a énormément changé, les protocoles ont changé, les patients arrivent en me disant voilà, on m'a dit qu'on allait, je ne sais pas, transférer les embryons 2 jours après la ponction. Mais en fait, ça va être 6 jours après, ça va être le cycle suivant, on va tout congeler tout. On ne fait plus de transfert frais, c'est comme ça que ça s'appelle. On congèle tout et puis on va laisser maturer les embryons 6 jours au lieu de 2. Enfin, mais on ne m'avait pas dit ça. Donc c'est assez déstabilisant parce que c'est quand même un projet parental, c'est quand même faire venir au monde des enfants. Et puis tout d'un coup, dans ce parcours, ils apprennent que ça va être fait autrement parce que dans les recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de chances parce que ça se passait mieux. Alors aujourd'hui, les médecins congèlent tout parce qu'ils disent que le corps de la femme est dans un état plus proche d'un corps quand il n'y a pas de soucis, quand on n'est pas dans un cycle qui a été stimulé. Ça paraît pas aberrant, mais tout ça, ça bouge tout le temps, c'est très technique, le vocabulaire est très précis et assez abscond, donc il faut que chacun, pour comprendre ce qui se passe sur des sujets qui vous touchent autant, c'est pas toujours facile. Donc les nouvelles demandes sociales, on y est. Alors nous, on a beaucoup pris en charge le risque viral, ça fait partie des spécialités de Cochin, c'est-à-dire là où il ne peut pas y avoir d'échanges non protégés, enfin de rapports sexuels non protégés, l'échange des gamètes. Donc si les gens veulent avoir des enfants, il faut passer par la PMA. J'avais mis le VIH, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que les nouvelles thérapies permettent d'avoir une charge virale tellement basse que globalement c'est possible. On a aussi une activité qui est assez récente qui s'appelle la préservation de la fertilité pour des femmes jeunes qui ont un cancer et qui vont avoir une chimiothérapie qui risque en gros d'abîmer leurs ovaires. On fait une PMA très très rapide, enfin on fait une stimulation très rapidement dès qu'il y a eu le diagnostic de cancer et avant qu'il y ait les traitements en cancéro pour prélever les ovocytes. Et puis on les met de côté. Et aujourd'hui, enfin, des ovocytes ou des embryons, si la dame est en couple, sachant que les médecins sont toujours très inquiets de prélever dans ce cas de figure de conserver des embryons parce que les embryons appartiennent à un couple et que si jamais 10 ans, 15 ans, enfin quand la dame revient, c'est plus le même couple, elle ne pourra pas avoir accès à ces embryons. Alors cette question de la préservation de la fertilité, il y a quelque chose de très beau pour des personnes, et très compliqué pour des personnes qui sont face à une maladie qui quand même, la mort est pas loin, enfin dans la tête, quand il y a le cancer. Et on leur parle de vie, donc il y en a beaucoup qui s'en saisissent un peu comme un défi, et puis pendant leur maladie vont lutter en disant je me bats parce que je sais qu'il y a des embryons, des ovocytes, parce que j'ai envie de donner la vie. Okay, bon. Mais maintenant qu'on préserve la fertilité, vous avez vu Google, Yahoo, oui. Enfin Apple, vous bossez, vous êtes en début de carrière madame, on peut vous préserver vos ovocytes. Et quand vous aurez un moment, alors je vous ai dit, en plus le taux de réussite en PMA est de 30% chez nous en moyenne, la décongélation des ovocytes, c'est pas encore une technique totalement au point. Ça marche parfois. Le poids des mots, fertilité, stérilité, infécondité, nous on parle souvent d'infertilité, parce que la stérilité il y a un côté définitif. Et qu'on va permettre à des gens d'avoir des enfants. Mais la stérilité, c'est le mot biblique, la femme stérile. Il y a une dimension interculturelle très forte. Dans certaines cultures, une femme sans enfant n'est pas une femme. Ou pas adulte. Dans certaines cultures, un homme sans enfant n'est pas un homme. Et c'est passionnant aussi. On découvre beaucoup de choses. Donc là, et enfin, la PMA, les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui souhaitent avoir une famille peuvent s'orienter vers la PMA ou vers l'adoption. J'ai dit, c'est une obligation légale d'en parler dès le départ. Mais pour moi, c'est deux chemins extrêmement différents. J'ai envie de dire, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche que les couples que je reçois vont se poser les deux questions souvent. Alors, on va aller sur le côté psy. La fertilité, l'infertilité, donc, est une entrave, hein, un empêchement au désir d'enfant, qui a plusieurs dimensions. Une dimension consciente, une dimension inconsciente et des connivences avec la mort. La dimension consciente, désirer un enfant. Et je voudrais dire, est-ce que c'est pareil qu'arrêter la pilule ? Ben non. Il y a une différence entre désirer un enfant et vouloir un enfant. Le désir d'enfant, on vous en a parlé, c'est quelque chose qui vient de très très loin dans notre histoire. J'ai travaillé un moment dans le centre de planning familial, où les personnes viennent demander un avortement. Je pense que beaucoup de femmes qui viennent interrompre une grossesse, qui ne veulent pas d'une grossesse, désirent un enfant. Mais la vie, les choses, bon. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, vous avez des gens qui disent vouloir un enfant, viennent en PMA, ils font tout, et vous allez voir, c'est lourd la PMA. Et puis, en consultation, ils vont me dire, dans le fond, je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir un bébé à la maison. J'ai envie de prouver que je suis une femme, que je suis un homme, que j'ai envie de montrer ma féminité, j'ai envie de savoir ce que c'est que d'avoir un gros ventre. Vous avez entendu, c'est je. Hein? Donc tout ça. Il y a une notion du temps qui est très présente. Alors pourquoi ? Je vous ai dit, il y a une première chose, en PMA, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas les jours où il va falloir être disponible. Je vais revenir dessus, comment ça va se passer dans le temps. Et puis on a un truc qui s'appelle l'horloge biologique. Les femmes connaissent pas mal, les hommes un peu moins, mais ils sont quand même affectés, pas aussi rapidement. Mais c'est là, moi j'ai envie de dire qu'à partir de 30 ans, les femmes savent que la fenêtre, elle... Bon. Et c'est très stressant, hein. Et j'entends, parce que les gens n'ont pas une conscience très très claire de ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire la fertilité, elle va baisser petit à petit, ou pas? Enfin, comment ça se passe, tout ça est... Mais c'est là. Mais quand même, il y a une dimension inconsciente très forte, ce que je vous disais sur désirer et pas vouloir. C'est le désir qui vient de très très loin, c'est le désir de la petite fille qui joue à faire maman. C'est le désir du petit garçon qui fait comme papa. C'est... Trouver sa place dans le fil des générations, c'est quelque chose qui est très très présent. Quand vous faites, quand un couple a un enfant, il rend ses parents grands-parents. Quand un couple quand une femme a un bébé, d'une certaine façon, elle prend la place de sa mère dans la logique des générations. Elle trouve sa place. Elle devient, en quelque sorte, un maillon de cette chaîne. Pareil pour l'homme. On parlera même de dette de vie. Alors là, il y a une grande neuropsychiatre, Monique Bidlowski, qui a développé ce concept-là. C'est-à-dire qu'en devenant parent, on rembourse une dette qu'on doit à ses parents. C'est un peu... C'est pas de la comptabilité d'entreprise. Mais, dans le fond, les parents, ils ont donné, quoi. Même si ça s'est passé plus ou moins bien, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait pour la plupart. Et c'est à son tour. Et rembourser cette dette, c'est important. Et quand on ne la rembourse pas, ou qu'on a du mal à la rembourser, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que les hommes et les femmes que je reçois, quand ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils font moins bien que papa ou maman. Parce que forcément, leurs parents, ils ont eu des enfants, sinon ils ne seraient pas là. J'ai envie de dire aussi que les questions de vie, c'est pas très loin des questions de mort. C'est quelque chose qu'on sait bien quand on travaille en maternité. Et je vous prends un exemple que... il commence à y avoir une littérature. Les gens commencent à écrire, chanter les chansons. Alors là, c'est en anglais parce que c'est une américaine. L'Amérique, là-dessus, a de l'avance. I would die for that. J'en mourrais pour cette chance de porter une vie. To bring a dream to life. de faire vivre un rêve. C'est aussi la part conscient-inconscient. Donc c'est Kelly Coffey. Elle a écrit pas mal de poèmes et de chansons. On sent que ça part des tripes. C'est pas une affaire intellectuelle, ou en tout cas pas seulement. Alors, que représente l'infertilité? Je vous ai dit, ce désir d'enfant, de ne pas pouvoir amener à la vie un enfant, c'est être envoyé à ses limites. Je mettrai en face, enfin si on veut, en vis-à-vis, le médecin qui permet ça est aussi est-ce qu'il est dans la toute-puissance, quelque part dans la transgression de limites? C'est des questions. Blessure narcissique et objectale. Objectale, en jargon psy, ça veut dire de l'autre, enfin pour l'autre, ça ne veut pas dire pour l'objet. Les blessures narcissiques, c'est bah, finalement, moi je suis quoi? Si je ne suis pas capable de mettre au monde ou même de concevoir un enfant, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas comme il faut. C'est que je ne suis pas un être humain tout à fait bien fait. C'est que dans le fond, il y a... Et ça, c'est une immense blessure. Je ne suis pas capable. Et puis, on blesse l'autre. Il faut quand même voir que la PMA, c'est un des rares lieux où la difficulté médicale de l'un peut amener à traiter l'autre. Parce que si le monsieur est infertile, c'est la dame quand même qui va avoir le traitement. C'est rare, hein ? Il n'y a pas beaucoup de pathologies médicales, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Bon, les considérations transgénérationnelles, hein, c'est donc ce que je vous ai dit sur la chaîne des parents, grands-parents, la notion d'aide de vie, les représentations issues de sa culture. Il y a des femmes ou des hommes pour qui l'infertilité va avoir un poids qui va peut-être même parfois empêcher de consulter. Alors, les réactions possibles qu'on trouve, alors je vais revenir sur la manière dont ça se déroule sur l'entend, choc. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. C'est pas possible. Tous mes frères et sœurs, ils ont 4-5 enfants. C'est pas possible. Et pas possible, c'est déni ou négation. Non, 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 le médecin se trompe. Je vais passer des heures sur Internet, d'ailleurs, pour démontrer, pour trouver. Culpabilité. Alors, culpabilité, parce qu'il y a cette blessure, je suis quelqu'un de pas bien, je me sens coupable et responsable. Peut-être que quand j'étais jeune, j'ai fumé des trucs que j'aurais pas dû fumer. Peut-être que j'ai pas fait assez attention à ce que mes parents me disaient. Toutes sortes de culpabilités, mais culpabilité aussi par rapport au compagnon ou au conjoint. Comment est-ce que je peux lui faire ça, à celui ou à celle que j'aime? Et d'entendre parfois dans les consultations, bah, finalement, il devrait peut-être me quitter. Il faudrait que je le laisse libre. Rage, oui. Fureur, colère, ça c'est des choses énormes. Alors ça fait que ces patients-là ne sont pas toujours très agréables. Hein. Isolement. Ce que je vous disais, voir des ventres, voir des bébés, voir des enfants, c'est... Donc on finit par plus voir ses copains, parce que si on est en âge d'avoir des enfants, c'est souvent qu'autour de soi, il y en a aussi. Et les couples peuvent se trouver de plus en plus isolés. Désespoir, oui, ça peut. Et absence d'autres projets parce qu'on est déprimé, mais aussi parce que l'hôpital vous demande, il y a de telles contraintes que c'est compliqué. Alors, aussi dire qu'il y a une réponse sexuée. C'est-à-dire que hommes et femmes le vivent. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas censé faire des différences entre les garçons et les filles, mais quand même, il y a peu de chances qu'un mec soit enceinte, pourquoi ? Pour la femme, être mère, ça confère un statut déjà social. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants, on les regarde souvent un peu de travers. Donc, ces femmes qui ne veulent pas trop en parler, ou qui n'en parlent pas à tout le monde, ou qui, bon, sont souvent regardés de travers. Enfin, il y a vraiment une blessure au niveau du statut social. Et puis, fantasmatique, c'est quelque chose de donner la vie. On écrit que les hommes ont peur de ces femmes. Voilà. Être mère, c'est quand même une puissance de vie extraordinaire auquel elle n'accède pas. Pour les hommes, il y a très rapidement un collage entre le vocabulaire qui va être employé sur les spermatozoïdes, qui sont pauvres, qui sont de travers, qui sont fatigués, qui sont pas beaux, etc. Et l'homme, je suis fatigué, fatigant, Et puis, je ne vous dis pas le vocabulaire, hein. Azoospermie, neuro. Enfin, voilà, c'est vraiment des. Ils se traînent ça en pleine poire. Et c'est vraiment une atteinte à la virilité. Et il y a comme une. Aussi une confusion. Tout le vécu sexuel, la sexualité, devient. Perd son sens. Comme si la sexualité se résumait à sa dimension procréative. Et je ne dis pas que ce n'est pas une dimension importante, mais il n'y a pas que ça. Et de fait. Il peut y avoir une espèce de séparation. Moi, je dis beaucoup que la PMA fait du mal au couple et qu'il faut vraiment un gros effort pour aider les couples à se retrouver. Il faut apprendre, enfin, faire le deuil de sa part féconde, de la fécondité biologique. Parce que même si les médecins vont aider, même si éventuellement il y a un don, l'infertilité, elle sera toujours là. Elle aura été masquée, comblée, mais voilà. La réprobation sociale, donc. Et du coup, une période d'ajustement. Et je vous mets là, je pense. Voilà, il faut vivre avec l'incertitude. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Il faut vivre avec un certain lâcher-prise. Il faut passer la main au médecin, ce qui n'est pas si simple. Et ça a donc un impact fort. Et là, je vous mets... Est-ce que je vais réussir à le faire? Voilà. Juste que vous l'entendiez. Ah. Il n'y a pas de son. Bah tant pis, c'est pas grave, on passe là-dessus. Donc, là, juste pour vous donner l'impact de l'infertilité dans le temps. Vous connaissez peut-être cette courbe du deuil. Comment? Phase of grief. Voilà. Parce qu'on va retrouver ces différents temps dans l'infertilité. Temps de choc, temps de déni, temps de frustration, de marchandage. C'est pas possible, ça n'arrive pas à moi. Et puis là-dedans, on va avoir de la colère parfois. Dépression, l'humeur négative, et puis petit à petit, acceptation, résignation. Et c'est là où on va pouvoir travailler avec le corps médical. Alors, l'AMP, on dit c'est un parcours, enfin le PMA, un parcours du combattant. On pense, ben, comme on a dit, insémination artificielle, FIV, ICSI, etc. Ça va commencer avec des bilans. Pourquoi j'en parle? Parce que ça commence déjà, c'est pas drôle. Bon, je vais pas faire des dessins, mais ils sont pas marrants. C'est, surtout pour les femmes, c'est vraiment un parcours pénible avant même de commencer. Alors, je vais balayer très très vite là. Je vous avais mis les étapes de la prise en charge. Donc, vous avez là la fiche qu'on remet aux patients, c'est le protocole d'une FIV avec les petites flèches, c'est les piqûres selon les jours. Voilà. Donc on leur donne un planning avec tel jour vous ferez telle piqûre. Donc c'est une page comme ça. Et en gros, pendant une petite semaine, enfin une bonne semaine, il y aura ou plus selon les protocoles une ou deux injections à faire. Sachant que tout ça, vous voyez, il y a marqué J. C'est basé aussi sur les dernières règles. Donc, quand vous êtes à 2 ou 3 mois de ce truc-là et que vous dites, est-ce qu'on peut partir en vacances ou pas, ça va dépendre de quand arrivent les règles. Est-ce que je suis à 6 mois? Est-ce que je peux accepter un changement de boulot? Bon, c'est compliqué. Donc, voilà. Là, vous avez les piqûres, vous voyez. Là, c'est l'étape, la ponction et le recueil des spermatozoïdes. Voilà, ça se passe le même jour. Vous avez là les... Alors, c'est pas vraiment des tubes à essai, c'est plutôt des boîtes de pétri. Le transfert des embryons. J'aime bien cette image parce que je trouve qu'il y a une certaine délicatesse, mais peut-être que c'est moi qui projette. Et puis, la congélation embryonnaire. Il faut quand même dire que chez nous, si le couple dit qu'il ne veut pas d'embryon surnuméraire, il n'y en a pas. Et s'il ne veut pas qu'il y en ait de congelé, il n'y en a pas. Ça a beaucoup changé, ça aussi, dans les 10 dernières années. On a beaucoup plus. Une des choses que je fais beaucoup plus qu'avant avec les patients, et notamment moi, il se trouve, parce que je ne vous connaissais pas, quand j'ai des patients chrétiens pour qui ça pose problème, et j'en reçois, je les envoie à un ami jésuite qui travaille aussi dans l'éthique bioéthique. Et lui, là, on insiste tous les deux quand même sur le fait que c'est un projet du couple. Et les médecins sont au service de ce projet. Et c'est pas l'inverse. C'est pas un projet des médecins où les couples viennent pour que... Voilà. C'est très important pour moi. Et quand je dis projet du couple, en France, la PMA s'adresse à des couples. Toujours. C'est-à-dire, même quand on va parler de dons et des choses comme ça, c'est toujours un couple à un couple. Et donc, c'est pour ça, on disait, quand il y a un donneur, il faut que son conjoint, sa compagne, accepte aussi qu'il soit donneur. C'est toujours de couple à couple. Donc voilà le stockage de nos embryons. On a des grandes cuves d'air liquide, d'azote liquide, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben alors, c'est parti au début. Bon ben écoutez, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, j'ai envie de vous dire juste quelques éléments dans la PMA. Pour moi, il y a plusieurs temps. Il y a le temps de l'attente, avant d'y aller, où on connaît petit à petit cette division progressive entre sexualité et procréation, où les couples disent « mais je comprends pas, ça met du temps ». Éventuellement, ils vont consulter, et on va leur dire « faut attendre ». Il faut attendre 6 mois, il faut attendre 1 an, il faut attendre 2 ans, ça dépend. Ou petit à petit, va se mettre en place des phénomènes éventuels de jalousie, d'isolement. Après, il y a le temps de l'investigation, qui est une période longue et anxiogène, avec beaucoup de rendez-vous. C'est pas évident pour les hommes de trouver leur place. Ils sont quand même dans un service de gynécologie. Alors dans les hôpitaux, en plus, enfin, moi, ma salle d'attente, c'est celle de la maternité. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais elle est remplie de gros ventres, voire de petits bébés. L'annonce de l'infertilité, pour moi, c'est vraiment... Et on est sur un sujet traumatique. Le trauma, hein, c'est défini par une confrontation avec la mort, c'est-à-dire l'absence de vie. Et je pense que l'infertilité fait trauma dans le couple. Alors donc, après on rentre dans le temps de l'engagement, c'est-à-dire un espoir médicalement assisté. Avec la question, c'est une grosse question qui revient souvent, de la sexualité en AMP, parce que c'est un peu comme les traitements, les médecins ils vous disent, c'est à tel moment, et pas avant, et pas après. C'est pas simple à vivre pour les couples. Et ça aussi, ça peut contribuer à créer de la distance. Les échecs. On est sur des processus où il y a les résultats des analyses qui tombent. Alors ça peut faire aussi, bon, c'est bien, on va avancer. Ou alors au contraire, c'est une mauvaise nouvelle, il va falloir aller vers autre chose de plus difficile. Ensuite, on va vers quelque chose. Ça peut marcher, on est content, on est sur la pente qui vous fait sortir de la PMA. Ou au contraire, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, il y a des embryons congelés, on va réessayer. Ah, ça marche, il y a une grossesse, fausse couche, paf, on replonge. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment des montagnes russes. Et c'est souvent des processus qui se répètent. Il arrive qu'un couple ait un bébé après une seule tentative, que ce soit d'insémination, de fibres ou de fibres. C'est quand même pas le cas le plus fréquent, il faut bien le dire. C'est des techniques invasives, c'est pas rien. Enfin, c'est à mesurer ça. L'intimité est mise à nu. Et là, je prends un exemple très, très simple, moi qui m'agace beaucoup. Les femmes ont beaucoup d'échographies. C'est un examen à la limite qui n'est pas trop pénible. L'échographie, c'est une échographie endovaginale. Bon. L'échographie, la table, elle est... Personne ne réfléchit trop comment on met le... Voilà. C'est souvent en face de la porte. On est à un hôpital universitaire. Il y a des internes, des externes, des infirmières, tout le monde passe, voilà. On ouvre la porte, on ferme la porte. L'idée que quelqu'un puisse juste mettre un paravent ou alors bouger le lit, c'est des choses sur lesquelles il faut se battre. Et là, c'est une intimité de base. Hein. Je ne vous parle pas de l'intimité, la vie de couple, donc le médecin qui vient demander, alors vos rapports, c'est quand, c'est comment, c'est monsieur, et voilà. Et bon, c'est vraiment une intimité mise à nu. Et évidemment, les patients, ils collaborent parce que l'enjeu est tel. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on parlerait de tout ça. Le climat est donc tendu et anxieux, avec une grande angoisse de l'échec. On a, je pense que les abandons en PMA avant le troisième cycle, pour 60%, sont liés à des causes émotionnelles. Sont pas liés à des problèmes médicaux ou des problèmes de couple ou des c'est vraiment difficile à vivre, angoissant. On a le même taux de dépression et d'anxiété que lors de l'annonce d'une maladie létale. Donc quand les gens me disent « mais mon entourage ne me comprend pas », me dit « ah, t'es jeune, allez, prends sur toi, la PMA a fait plein de découvertes, plein de machins », j'en peux plus, ben la personne a raison. Donc elles se sentent agressées, et vous savez que les gens, quand ils se sentent agressés, en général, ils sont assez agressifs, ce qui n'est pas toujours facile à vivre pour les équipes, ni pour eux. Donc les abandons de traitement, c'est ce que je vous ai dit, le plus grand nombre lié à des difficultés émotionnelles, cette anxiété et psychologique. Quelques mots sur l'AMP sans cause, on dit qu'environ 15% des couples sont là et on ne sait pas pourquoi. Alors, on trouve, je ne vous dis pas la culpabilité qu'ont ces gens-là. Parce qu'ils se disent, c'est chacun, enfin, dans le couple, souvent, on dit c'est à cause de moi, mais je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis alors ça mouline, comme on dit. Bon. Alors, sur le don, juste quelques mots. La difficulté du don pour aller très très vite, parce que c'est que d'une part, on va réparer d'une certaine façon la stérilité, mais qu'en même temps, on ne répare rien du tout. C'est-à-dire que la personne n'est pas, entre guillemets, soignée. On a trouvé une solution, mais la stérilité reste. Devenir parent stérile, c'est compliqué. On est dans la transgression, clairement. Et ça, quelles que soient les convictions, les croyances, on passe une limite. Et puis, il y a cette question du donneur ou de la donneuse. Quelle place on lui donne? Et ça, ça va être une vraie question. Donc, après des mécanismes, on va trouver de déni, d'ambivalence. C'est un parrain, une marraine, une bonne fée, une mauvaise fée. Les questions du secret. Déjà en PMA, on trouve cette question-là. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais le dire aux enfants? Est-ce qu'on va le dire à l'entourage? Dans la question du don, bien sûr, ça fait partie dans la consultation psy obligatoire. C'est le sujet principal. Chez les femmes, le don d'ovocytes, pour vous dire, j'ai une dame qui me disait que si je fais un don, j'aurais l'impression que mon mari me trompe avec une jeunette. J'aime bien l'image parce que. Donc il y en a qui le vivent comme ça, il y en a d'autres qui me disent bah, c'est comme la belle au bois dormant avec la bonne fée sur le berceau. J'aurais une bonne fée sur le berceau de notre enfant. Il faut savoir, dans notre service, le chef de service, il y a la stimulation avec tel médicament, la stimulation avec tel autre médicament, il y a la stimulation avec don, il y a la stimulation sans ceci, c'est juste un traitement comme un autre. Pour les patients, c'est un peu moins le cas. Vers l'adoption, c'est une vraie question. D'abord parce que, je vous ai dit, il y a quand même un certain nombre de couples qui sortent du parcours et qui ont quand même envie d'avoir des enfants. Pour moi, c'est important de prendre son temps, en tout cas de se demander ce qu'on veut faire et pourquoi, parce que la démarche n'est pas du tout la même. Dans l'adoption, on accueille un enfant qui a son histoire et tout le monde n'est pas capable de ça. Donc tout le monde n'a pas envie de ça. Alors il faut savoir aussi, bon, aujourd'hui, parce qu'on l'évoque, donc l'adoption c'est toujours quelque part dans la tête des gens. L'année dernière, en 2014, en France, 500 enfants ont été adoptés pour 22 000 nouvelles demandes d'adoption. Donc je vais pas. Voilà, je crois que je vais en rester là. Juste dire que après l'AMP, si tout va bien et qu'il y a une grossesse, on va trouver un niveau d'anxiété comparable à une grossesse à risque. Cette période-là, elle n'est pas forcément facile à vivre. D'abord, il y a un tour plus important de fausse couche. Donc, il y a cette angoisse de la fausse couche possible. Il y a une inquiétude sur les enfants. Et on va le retrouver quand il y a un problème. L'enfant pleure un peu à l'entrée de la maternelle. L'enfant tombe tout le temps, enfin, je ne sais pas, des accidents. On va se dire, et si ce n'était pas l'AMP? Et je ne dis pas que ça l'est ou que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ça va toujours être là. Un peu comme les enfants prématurés, les bébés. On va toujours avoir en tête, est-ce que c'est... Et si c'était ça, bon, voilà. Il y a une plus forte, évidemment, pourcentage de naissances multiples. Ça a beaucoup diminué. On a arrêté les interruptions sélectives. On est, chez nous, des transferts de deux embryons sont rares. Ça correspond à des cas très particuliers où vraiment il y a très peu, enfin où les médecins estiment qu'il y a à la fois pas de risque gynécologique d'une grossesse gémellaire, enfin pas trop, et qu'il y a très peu de chances que les deux embryons s'accrochent. Ça n'empêche pas, moi j'ai une consultation là avec une dame qui a eu des triplés, on avait implanté deux embryons et puis il y en a un qui s'est séparé en deux. Donc en conclusion, juste, ça, on commence à avoir pas mal de recul. C'est pas 35, c'est 45 ans de recul. Il y a des lois. Ces lois sont très intéressantes. On les connaît pas bien. Je peux vous dire, dans les services, on les connaît pas bien. Et c'est dommage, on a besoin de mieux les connaître. Je prends un cas, là, on a reçu un... Je vous raconte des histoires. Voilà, j'ai reçu un couple... Il y a un an, un monsieur 59 ans et sa compagne 39 ans. Voilà, voilà, il avait été célibataire jusqu'à... Il avait beaucoup de chats. Et il rencontre une jeune... Voilà, et il décide qu'ils veulent un enfant. Ils viennent nous voir. On me l'envoie parce que quand même, il n'est pas tout jeune. Il n'y a pas de critère de refus. On prend en charge l'âge de limite. Il n'y a pas vraiment de l'âge limite. Légalement, il n'y a pas de l'âge limite pour les hommes. Chaque service a son âge limite. En général, c'est l'âge du chef de service. Donc, pas de refus. Je les revois un an après. Alors, ils ont arrêté. En fait, ils ont décidé. Et puis, ils reviennent un an après. Et madame m'explique qu'elle avait arrêté parce qu'avant de commencer la PMA, il fallait prendre la pilule parce qu'on appelle ça mettre les ovaires au repos. Bon. Donc elle fallait prendre la pilule et puis finalement elle avait un peu grossi. Donc elle a décidé d'arrêter. Et puis après il y a eu un déménagement, bref il y a eu un an d'écart et je les revois. Et donc elle me parle de cet arrêt, donc je lui dis mais vous savez, une femme enceinte ça grossit aussi, enfin, ça vous gêne pas trop? Elle me dit non mais la grossesse c'est un peu pénible pendant 3 mois, après tout va bien. Ah, moi j'ai 5 enfants. Oui madame, peut-être, mais peut-être pas. Et c'est pas pour vous décourager, mais je pense qu'il faudrait qu'on parle un peu de tout ça pour que vous puissiez anticiper un peu. Alors un bébé, ça pleure à peu près 3 mois et ensuite ça pleure plus. Vous avez déjà gardé des petits? Bon, là je vous dis ça en rigolant, mais c'est des gens qui font une demande de PMA. Et le monsieur est avocat, donc il faut faire attention quand même. Et là, un an plus tard, hein, 40 ans, 60 ans. Et mais le chef de service aussi, il a pris un an. Et alors, donc, moi, j'ai mis là un avis très réservé, parce que ça me paraissait bizarre. Mais en fait, ils avaient déjà commencé. Donc, la dame fait sa stimulation, donc les piqûres, les rendez-vous, tout ça. Il y a... ponction, dizaine d'ovocytes, c'est impeccable, 2 embryons, parfait. Donc il y a 2 embryons en congé, parce que comme je vous ai dit, maintenant nous on congèle tout pour que l'endomètre, enfin que tout aille mieux pour le cycle suivant. Mais voilà que 2 jours après que les embryons aient été congés, le monsieur envoie un mail au médecin en disant « je veux qu'on arrête tout pour raison personnelle ». Et le surlendemain, il renvoie un mail et il dit, finalement, non, c'était juste un moment comme ça. Non, non, je suis... Alors, c'est là où le médecin, quand même, dit, alors là, il y a un truc qui ne va pas. Et il convoque le couple avec la biologiste et on les reçoit la semaine dernière. Et on leur dit, on voudrait attendre un peu parce que tout ça nous semble bien bizarre. Ce qui a évidemment déplu intensément au couple, notamment madame, qui partait à l'étranger... Ce qui est très, très curieux parce que le lendemain du transfert prévu, ce qui est très curieux parce qu'en général, les dames ont très très peur dans cette période-là. C'est vraiment un moment de très forte anxiété et elles restent très très près du centre pour pouvoir consulter s'il y a quoi que ce soit. Ouais, bon. Donc ça venait un peu renforcer notre idée. Alors voilà, quand je vous dis qu'on ne connaît pas bien la loi, c'est qu'à partir du moment où le monsieur il a dit « je reviens sur mon consentement », on arrête tout. Ce qui simplifierait beaucoup notre position de le savoir, parce que là, on était un petit peu sur. Enfin, on était très inquiets de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'on a le droit, il y a des embryons, qu'est-ce qu'on en fait, mais même s'il y a des embryons, on arrête tout. On a le droit, c'est une disposition, ils appellent ça l'instabilité du couple, on arrête tout. Et c'est là où. Je ne suis pas non plus juriste du tout, j'ai un peu de mal avec tous ces domaines-là, je suis clinicienne, mais je me dis que ça peut nous aider de mieux connaître le droit. Et je conclurai juste, parce que je n'ai pas d'image avec des codes-barres, hier j'assistais à une journée avec des médecins de l'infertilité, et une juriste était là pour nous montrer sur l'année 2014-2015 l'évolution de la jurisprudence en matière légale autour de ces questions-là. Et juste, c'est une révolution. C'est une révolution qui est menée par des principes qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, fort respectable. Et on va vers la PMA sociétale, mais à marche, alors on peut dire j'ai besoin de penser, j'ai besoin de réfléchir, mais il faut quand même se dire qu'on est dans un contexte où, en tout cas, la PMA pour les femmes homosexuelles, on voit pas trop comment on pourrait ne pas la faire très rapidement. La GPA, c'est plus compliqué, mais pour des revendications d'égalité, indépendamment de l'orientation sexuelle, égalité des droits, ça va aussi. Il y a à la fois les principes, ce à quoi on croit, mais l'environnement dans lequel on est va basculer très très, enfin risque de basculer très vite. Voilà ce que je voulais vous dire.